Radio Campus Paris.
Il est 20h, let's go Margot.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut, yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils sont
dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now. Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Et on est parti pour une heure de radio par et pour les personnes queer et celles qui se cherchent encore. On est ensemble jusqu'à 21h avec toujours une fière équipe à mes côtés. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Casting 5 étoiles ce mois-ci, comme toujours avec l'inénarrable Javel Habibi qui était au micro ici ce mois dernier. Salut Javel.
Bonsoir le lobby.
Comment ça va?
Bah, très très bien.
De quoi on parle ce soir? De film, je crois,
ce
toujours.
Soir, on parle d'un petit film d'auteur inconnu, I am Céline Dion.
Tout simplement. Autour de la table, il y a Chat aussi. Comment vas-tu?
Salut Colin.
De quoi on parle aujourd'hui tout à l'heure?
On parle d'un sujet qui ne me quittera jamais, le tapin.
Tout simplement, je savais de quoi tu allais parler, mais je ne m'y attendais quand même pas. Tu me surprends toujours. C'est aussi le retour d'Alexis. Moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va?
Hello, ça va très bien.
De quoi on parle, Alexis?
On va parler de Hated Rivalry, qui se veut peut-être une série féministe.
Ah tiens, eh bien on verra ça tout à l'heure. Et puis, que serais-je sans elle? La reine des Gwynapédé est avec nous. Bonsoir, Lucie.
Bonsoir.
Alors, sans plus attendre, on va accueillir notre invitée du mois. Vous l'avez très probablement découverte dans Drag Race France sous le nom de Sarah Forever, une drag queen polyvalente qui sait tout faire, chanter, danser et même cligner de l'œil avec les deux yeux. Il faut dire que derrière Sarah Forever se cache un danseur et performeur déjà aguerri. Finaliste de l'émission, il utilise sa notoriété pour prendre part au combat politique. On l'a vu sur une grande scène de la place de la République pour appeler à voter à gauche lors des élections législatives anticipées de 2024. Une scène qui rappelle bien sûr le début de son premier roman Brûle bébé paru au Diable Vauvert. Alors, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? Mathieu Barbin est notre invité.
Bonsoir le lobby.
Radio Campus Paris.
Bonsoir Mathieu Barbin, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On se sent très chanceuse de te recevoir pour ce premier roman sorti le mois dernier, Lucie.
Tu nous y racontes l'histoire d'Alex, un enfant queer qui grandit près de Bordeaux, qui navigue entre les violences de l'adolescence, l'amour et la fascination pour sa mère. Et puis la découverte de sa passion pour la danse, son départ à Paris. Alex devient performeur, puis artiste drag, passe à la télévision et brille sous le feu des projecteurs. Mais en chemin, il est forcé de rompre, dans la douleur avec son milieu d'origine et surtout avec sa mère. C'est un roman d'apprentissage dont on imagine les résonances avec ton histoire personnelle. Est-ce qu'on est dans l'autofiction ?
Oui, et pas que, j'espère. C'est chiant l'autofiction. Enfin, non, c'est pas chiant, c'est super. Enfin, or, c'est-à-dire que.
Oh, ça commence bien.
Non, mais il y a 20 ans, allez, c'est parti. Non, il y a 20 ans, c'était une porte d'entrée sublime qu'on portait très très haut. Et puis maintenant, plus personne, enfin, tout le monde chie sur l'autofiction. Ouais. Comme si c'était. Voilà, bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de snobisme aussi dans ce. En fait, l'autofiction, parfois, c'est une super porte d'entrée pour l'écriture. Et moi, ça a été le cas. Mais après, il y a aussi beaucoup de prise de distance. Il y a une écriture aussi assez onirique dans le livre. Presque fantastique aussi, qui développe vraiment un imaginaire queer, et du coup il y a beaucoup de moi et aussi très peu de moi, et y a, les regards changent, bougent, et je pense que de toute façon dans chaque roman, dans chaque création, dans tout ce qui sort quand même de nous, peu importe le format et le médium, il y a évidemment de nous intensément, et puis je pense que l'intérêt c'est aussi d'embarquer le plus de gens possible, donc que ça ne reste pas collé à celui qui écrit ou dit ou... et donc voilà, donc le roman je pense qu'il est pile entre les deux.
Puis tu dis on chie beaucoup sur l'autofiction, mais il faut voir aussi qui chie sur l'autofiction, parce que j'ai l'impression que ça vient quand même de personnes assez privilégiées. Et après, peut-être on peut un peu plus chier sur l'autofiction, je sais pas, mais prendre cette distance en tout cas avec une autofiction qui serait l'apanage de personnes qui viennent de milieux privilégiés et qui ont beaucoup plus facilement accès peut-être à l'écriture et à la littérature.
Oui, oui, c'est ça. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le livre cristallise, hein, c'est un objet qui empêche beaucoup. Et donc je trouve que voilà, de s'emparer et puis de l'exercice aussi de l'écriture, l'écriture par le biais de l'autofiction, bah c'est génial. Ça peut porter très haut. Il y en a plein qui l'ont fait avec des réussites ou pas. Mais enfin, il y a des livres, des autofictions sublimes et des livres qui ne passent pas par l'autofiction et qui le sont aussi. Puis l'inverse, il y a des autofictions catastrophiques. Et enfin voilà, enfin il y a pas de règle préétablie quoi, mais voilà.
Alors ce livre Brûle bébé, c'est aussi le parcours d'un jeune garçon qui découvre sa passion pour la danse et ça passe par la musique. D'ailleurs, moi j'avais un peu envie de lire Brûle bébé comme un espèce d'immense blind test. Je vous propose qu'on joue tous ensemble. Vous êtes d'accord?
Oui.
Allez, première musique.
Shakira, je crois.
Bien sûr Shakira. Ça, c'est la première musique du livre Brûle bébé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel contexte Shakira Whenever Wherever 2001 arrive dans Brûle bébé?
Alors dans Brûle bébé, parce que alors moi je m'en souviens pas du tout. Dans ma vie, moi j'en ai aucune idée.
Dans
Brûle bébé, c'est la kermesse de Alex. Et en fait, les professeurs, l'institutrice, je sais pas pourquoi d'ailleurs ce qu'il lui prend, mais il fait faire une chorégraphie à tous les élèves. Il est en petite section, c'est CP ou quelque chose comme ça, sur Shakira. Et en fait, pendant une répétition, sans trop en dire, mais finalement, Shakira va être visitée par Robert Rue. Ne me demandez pas pourquoi, mais parce que c'est pendant une période électorale.
Écriture onirique.
Voilà, et exactement. Et quoi de mieux quand on parle d'onirisme que de parler de Robert Rue.
Robert Rue, donc, rappelons quand même. On a peut-être de très jeunes auditeuristes candidats communistes aux élections de 2002, élections présidentielles.
Exactement, voilà. Et donc Alex se retrouve habité par les images de la télévision de la veille et en même temps l'image de Shakira dont il ne comprend pas grand-chose, il faut bien le dire. Même encore aujourd'hui, je suis quand même obligé de regarder sur Internet pour comprendre ce qu'elle dit, parfois. Donc voilà, il est traversé comme ça, il plonge déjà dans la scène et le politique de manière... intrinsèquement lié quoi.
On avance dans l'histoire, mais on recule dans le temps.
Comme un enfant,
bien sûr, Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Chanson, on adore le rappeler quand on entend cette chanson, évidemment, qui a gagné l'Eurovision, qui a fait gagner la France à l'Eurovision en 1977. Peut-être tu peux nous dire à quel moment elle arrive dans le livre et peut-être aussi dans ta vie.
Mais je me souviens plus. Non, ça arrive à quel moment dans le livre? Je sais plus du tout. Non, en vrai, je sais plus du tout.
Alors là, je
sais qu'elle
est. Voilà,
mais...
là il est sur scène, il doit danser sur. Quand je dis il, je parle d'Alex, ton personnage.
Ah, c'est peut-être avec la folia.
Voilà, la sarabande.
Ouais,
de
c'est ça,
Nel,
sur la sarabande.
Qui
ouais.
ressemble effectivement.
Ah
coup,
oui, exactement.
Un petit peu
oui,
les
oui, parce
chansons.
Que. C'est ça, parce qu'en fait, le thème de cette musique, chantée par Marie-Myriam, effectivement, reprend le thème de la sarabande, qui est un thème en musique classique très connu, où il y a Barry Lyndon, etc. Enfin, il y a beaucoup.
Le film de Stanley Kubrick.
Exactement, et donc cet air qui est la folia. Et il est pareil dans une expérimentation, enfin vraiment à mi-chemin entre le parcours intime et le parcours scénique. Et il est comme ça baladé entre effectivement plusieurs références, dont cet hymne sublime. Enfin,
bien sûr.
La chanson est juste à chialer.
Marie-Myriam, donc, allez, troisième extrait.
David Bowie.
Oui, mais la réponse était
presque dans la jouer.
Let's Dance, bravo Javel, on peut l'applaudir.
Bravo Javel, grande gagnante de ce blind test.
Let's Dance 1983, là on est plus vers la fin du livre, est-ce que tu peux nous raconter? C'est d'ailleurs assez rigolo que ça soit Javel qui ait trouvé, parce que je crois que c'est un petit peu...
C'est à la flèche d'or.
Voilà.
C'est à la flèche d'or, c'est le personnage donc qui... Il y a assez peu de pages sur le drag dans le livre.
Ça arrive assez tard.
Paradoxalement, et ça arrive très tard, mais effectivement, il performe sur David Bowie parce que David Bowie c'est tout évidemment pour les identités, pour la redéfinition de soi, pour l'expérimentation scénique, c'est un artiste qui permet tout.
Je fais un petit audio guide parce que tu dis parce que tu sais à
oui,
Javel,
mais
donc rappeler rapidement que Sarah Forever performe au sein du cabaret de Javel Habibi les soirées Habibi à la Flèche d'Or. Je peux dire ça. Non, vous faites une moue un peu.
Tu as fait partie.
Voilà.
Tu as fait partie vraiment des toutes premières saisons.
Ouais.
Tu as contribué très fort à fabriquer ce cabaret avec moi. Ouais.
Comment est-ce que toi, Mathieu, tu as fait cette sélection musicale pour Brûle bébé?
Vraiment comme des outils que je travaillerai sur scène. Donc en fait, comme je passais par une écriture de plateau, j'ai vraiment pris les choses comme ça. Et donc c'est plutôt des musiques que je trouve intéressantes à plein d'endroits, plastiquement, intellectuellement, esthétiquement, enfin tout ce que ça développe. Mais vraiment comme si en fait je m'apprêtais plutôt à travailler ça sur scène. Donc soit pendant un show, soit pendant des répétitions. Enfin en tout cas des musiques qui appellent, je pense,
le spectacle
et le corps, la présence du corps. Et c'est peut-être pour ça aussi que le corps est quand même très présent sous différentes formes dans le livre, c'est parce qu'il est très souvent traversé par toutes ces musiques, mais c'est parce que ça a été ma porte d'entrée pour écrire, effectivement, la scène, le rapport au corps, la performance, donc la musique.
Et justement, en parlant du drag, tout au long du récit, on découvre une galerie de personnages féminins. À travers le regard fasciné du jeune Alex, il y a sa mère, évidemment, avec son brushing laqué impeccable. Il y a aussi sa prof de danse, Aïcha, ou encore la terrible sœur Bénédicte, qui dirige, oui, qui est dans l'école catholique dans laquelle Alex est inscrit. Ce sont des femmes adultes avec des chorégraphies, des coquetteries maîtrisées que Alex regarde fasciné et qui vont peut-être nourrir son drag. Est-ce que c'est quelque chose que toi, qui fait écho à toi, ton parcours, comment t'as construit ton drag, d'observer
non,
ces
pas,
femmes
non, pas du non, tout. Enfin, je crois pas, hein, vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on a cette image, mais qui est intéressante, hein, souvent de la mer, des collants, du rouge à lèvres. Je crois pas trop avoir nourri ça. Alors après, oui, j'ai toujours été fascinée, par contre, par la dextérité avec laquelle ma mère se préparait. Enfin, ses cheveux, enfin, il y avait un truc, mais toujours maintenant, d'ailleurs, ce qui me...
C'est un rituel qui est décrit dans le livre,
oui,
d'ailleurs.
Qui est beaucoup décrit, les cheveux, puis je trouve ça d'une force. Enfin, je veux dire, parce qu'il faut y aller quand même.
Voilà. Toute la laque.
Non, mais et puis même, ça dure 2 heures. Enfin, c'est un cauchemar. Enfin, que le coiffeur te le fasse, à la limite, tu dis bon, c'est déjà très. Mais elle arrive à le reproduire. Et donc, déjà, quand j'étais petit, je trouvais ça fascinant. Après, est-ce que toutes ces femmes ont nourri le drag ? Pas tant, mais aussi, je sais pas si j'ai un drag. Enfin, si j'avais un drag très nourri, en fait, de temps, d'images, de tant de questions autour de la féminité. Je crois que c'était plus les portes d'entrée du drag. J'ai l'impression, moi, qu'elles sont quand même plus diverses. Alors bon, oui, ça s'est arrêté sur ce genre-là, parce que pourquoi pas, il est si peu visible. Donc autant l'incarner et puis essayer aussi de le performer. Mais je pense que ça aurait pu prendre plein d'autres chemins. Donc j'ai l'impression aussi d'avoir un drag qui est en ping-pong avec beaucoup de genres et de redéfinitions. Donc je sais pas trop si en fait il y a eu beaucoup d'influence, ouais, de ces femmes sur mon drag.
Et tu nous disais donc que ces musiques qu'on a entendues tout à l'heure, c'était un peu comme de l'écriture au plateau, que tu t'en es servi dans l'écriture. Justement, comment est-ce que tu as écrit le roman ? Est-ce que c'était d'une traite ? Est-ce que c'est plusieurs morceaux qui ont été assemblés ? Est-ce que c'est sur plusieurs années ? Comment est-ce que ça s'est...
C'était... Alors non, ça a été assez rapide, parce que ça s'est fait en un an, de la première phrase à la sortie. Ça a été assez chaotique, j'ai beaucoup écrit, en fait on sortait de représentations de Dynastie, le solo que je tourne encore, des représentations à Paris, et du coup c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup d'éléments qui sont d'ailleurs présents dans le spectacle, dans le livre, mais ensuite j'ai beaucoup écrit pendant quelques semaines, puis j'ai vraiment interrompu tout l'été, puis j'ai repris, et puis aussi surtout j'ai pas du tout écrit de manière chronologique, parce que je ne savais pas du tout, j'étais pas sûr que la chronologie ait vraiment fasse sens. C'est ensuite avec le fait politique et les événements politiques que je me suis dit qu'en fait il fallait l'arrêter quand même dans une frise. Mais au début je l'ai écrit beaucoup par thématique aussi, c'est-à-dire que je pouvais écrire des jours sur la danse, des jours sur le corps plus onirique, des jours entiers sur Auchan, parce que Auchan est très présent dans le livre, et peu importe l'année en fait. Et c'est que à peu près vers la moitié du processus que j'ai commencé à remettre les choses en ordre, et là c'était donc catastrophique puisque plus rien ne faisait sens,
qu'il y avait
beaucoup de choses que je développais trop tôt ou trop tard, enfin qui faisaient sens quand j'ai écrit, mais en fait en remettant dans une certaine chronologie c'était soit trop intense soit pas assez, enfin bref, et du coup je me suis juré d'arrêter et de continuer ensuite dans la chronologie, et donc là j'ai repris voilà une forme plus logique dans le développement du récit.
Tu signes ce roman Brûle bébé sous les noms de Mathieu Barbin et de Sarah Forever, qui est écrit en plus petit juste en dessous, et dans le film Habibi, chanson pour mes amis, que vous connaissez, chers auditeurs, si vous avez écouté une émission avec une certaine Javel Habibi, réalisatrice de ce film, en juillet. Tu dis que pour toi, il n'y a pas de distinction entre les deux, que tu n'es pas quelqu'un d'autre quand tu es Sarah Forever. Pourtant, à lire ton roman, on pourrait penser qu'il y a conflit entre ces deux identités.
Ah bon ?
Ah non, peut-être pas.
Non, tu veux dire le personnage et le drag,
ouais.
Et son approche. Ah bon, il y a un conflit ?
Ah, je sais pas.
Non,
c'est comme
non.
Ça que je l'ai lu un moment.
Ah
ouais,
d'accord. Non, ça tiraille, mais ça tiraille tout autre.
Ouais.
Je veux dire, quand il est en drag ou quand il ne l'est pas. Non, je ne fais pas de distinction. Enfin, oui et non, ça dépend des jours. Enfin, non, je ne fais pas de distinction. Je ne pars jamais de Sarah Forever la troisième personne. Ou
oui.
Voilà. Après, c'est aussi, enfin, ça a toujours été, mais ce qui revient aussi beaucoup quand même, de plus en plus, je trouve, dans ma pratique, mais aussi parce que j'en fais très peu maintenant, enfin, presque plus même, c'est que c'est un outil de théâtre. Et du coup, bon, qui dit outil de théâtre peut dire aussi une espèce de personnification qu'on peut mettre à distance, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il s'agit beaucoup de corps, le drag, et moi, c'est traversé par le même corps, la même voix, les mêmes... ça transpire de la même manière, donc moi j'ai quand même tendance à dire que en fait c'est les portes d'entrée qui sont différentes, que c'est le contrat aussi passé avec celui qui écoute et qui regarde, mais qu'en fait ça passe par, par un seul être, une seule chair quand même, et que du coup j'ai du mal à distinguer vraiment les deux. Voilà.
Un seul être, une seule chair, celle de Mathieu Barbin qui est avec nous ce soir dans le lobby pour son premier roman Brûle bébé, et ça, ça nous plaît beaucoup. Beaucoup vous aurez reconnu Bilal Hassani en concert le 17 novembre à La Cigale, 20h19.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Et ce soir, nous sommes avec Mathieu Barbin, alias Sarah Forever, pour la sortie de son livre Brûle bébé, une autofiction à lire aux éditions du Diable Vauvert, Lucie.
Alex, donc, le personnage principal du roman, grandit seul avec sa mère qui n'a pas beaucoup d'argent, qui fait des ménages pour arrondir les fins de mois, puis pour lui payer son départ à Paris et ses cours de danse. Dans la famille d'Alex, il n'y a jamais eu d'artiste. Alex, c'est le tout premier. Quand il l'annonce, c'est un peu... Moi, j'ai ressenti ça à la lecture comme un coming out. Enfin, il y a quelque chose de, du stress, de la tension. Est-ce que tu es passé par là, toi aussi, quand tu as annoncé cette
C'est drôle que tu parles du coming out, parce qu'il n'y a pas de coming out
tout
dans
à
le
fait.
Roman.
C'est la question d'après. Ah, ouais, tout à fait.
On peut
l'anticiper.
Ouais. Non, mais c'est... Oui, effectivement, c'est une vraie déclaration, je pense, à ce moment-là, d'amour, enfin, de lui pour son art, ses arts, et puis aussi une déclaration d'amour, je pense, pour la course qui s'apprête à enclencher. Est-ce que moi, je l'ai vécu comme ça? En tout cas, ce qui est très vrai, c'est qu'il n'y avait pas d'art chez nous. Enfin, c'était même quelque... Enfin, voilà, c'était tellement... Enfin, ni de manière matérielle, ni immatérielle. Enfin, je veux dire, c'est une notion vraiment qui échappait, je pense, à et ma mère et la famille, voilà, si ce n'est via le canal de la télé. Mais du coup, est-ce que... Mais je ne sais pas, moi, si j'ai tellement eu à faire, à dire, je veux devenir... Remarque, moi, ça s'est fait vraiment très tard. Ça a été un peu une bataille, quand même, avec ma mère, qui ne voulait pas me laisser partir pour ça. Parce que, quand même, devenir danseur, ça restait un truc...
C'est pas un vrai métier.
Mais pas possible. Puis oui, puis c'est pas c'est un vrai métier. Puis avant même de... C'est juste pas... Oui, ça n'existe pas. Enfin, tu fais ça pour t'amuser, pour t'occuper, surtout. Mais du coup, il y a eu une petite lutte, quand même. Et puis moi, j'avais très envie de faire des études. Donc même ça a été plutôt une lutte interne aussi, j'avais pas très envie de partir pour danser, puis en fait après c'était la meilleure option qui s'offrait à moi pour partir, pour fuir. J'avais aussi conscience assez vite, je pense, que les études allaient pas me faire aller où je voulais. Je parle pas ni d'aspect financier ni de géographie, mais j'avais envie de briller, je crois, en fait, hein, tout bêtement, et que du coup la danse était un super moyen. Donc ça s'est imposé quand même au bout d'un moment. Ça a été plus une lutte oui, à cet endroit là après, ma mère n'était pas surprise. Hein. Je veux dire, depuis petit, voilà, je faisais que ça, chanter, danser. Enfin, voilà, ça a été. Bon, il a fallu choisir à un moment parce que je faisais beaucoup de choses et qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir tout payer. Donc, il a fallu se concentrer sur la danse. Mais moi, j'aurais pu prendre tout ce qui passait, hein, vraiment, pour partir. Tout était bon à prendre, enfin, pour partir et pour faire de la scène. Donc, c'était assez logique.
Et donc, comme tu le disais, effectivement, il n'y a pas de coming out, pas de coming out PD, en tout cas, dans ce livre. Ça reste presque un non-dit entre Alex et sa mère. Ça passe un peu par des jeux de regard aussi.
Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet. Je pense que ce n'est pas un sujet. Je pense que ce que je voulais peut-être mettre en avant, je m'en suis rendu compte assez tard, hein, qu'il n'y avait pas de coming out. C'était que, très probablement, et je pense que c'est aussi comme ça que ça se fait dans beaucoup d'histoires queer, ça se fait dans les silences, ou en tout cas, ça ne se fait pas sur les choses qu'on lit dans le livre. On peut aussi imaginer que ça s'est fait entre les événements qui sont décrits dans le livre. Et j'aimais que ça porte une charge comme ça, presque de l'invisible, portée par l'invisible. Et puis c'est aussi l'invisible silence, quelque chose qui est très présent dans le livre. Il n'y a jamais de confrontation entre la mère et le fils. Il n'y a effectivement jamais de coming out. Mais avec la famille, il n'y a jamais de confrontation aussi, jamais d'explication. Donc en fait, ce qui prévaut, ce qui étouffe, ce qui est violent, ce qui donne des coups de canif, c'est le silence, l'absence de mots. Et c'est ça que je voulais beaucoup mettre en avant. Et c'est effectivement par une absence, en tout cas à la lecture, du coming out. Et puis, il y avait autre chose aussi avec le coming out. C'est que je le trouve très chargé de plein d'imaginaires. Et je pense que je me sentais incapable de l'aborder, de l'écrire avec une quelconque écriture. Enfin, je trouve que c'est très, très lourd et que ça m'empêchait beaucoup. Et donc,
aussi parce que c'est un moment dont la grammaire est déjà un peu préécrite.
C'est un peu impensif aussi dans toutes les histoires.
Exactement,
queer. Même quand tu annonces à quelqu'un que tu es queer, tout de suite on te dit mais comment tu l'as dit. Enfin, c'est tout de suite une histoire.
C'est chargé d'imaginaire, de mots, de vocabulaire, de grammaire. On pense à des images, à des séries. D'ailleurs, quelle personne queer n'a pas ouvert une série et capté au bout de 2 secondes qu'il allait s'agir d'un coming out au bout du 8e épisode. Voilà, et donc ça alourdit beaucoup. Alors, des fois, c'est très joliment dit, raconté, etc. Et puis, des fois, c'est un peu lourd. Voilà.
Moi, j'ai lu aussi Brûle bébé, au moins la première partie, comme le récit d'une sortie d'enfance qui se fait aussi de manière comme un arrachement. Et notamment parce que l'homosexualité et l'homophobie font irruption dans la vie d'Alex avec pas mal de violence. Il y a cette séance de masturbation pendant une colonie de vacances scout. Il y a cet homme qui, dans un bus, incite Alex à le branler. Ou encore les sorties homophobes de ce fameux oncle Ludovic. C'est un parcours initiatique dans lequel Alex peine à trouver des figures queer pour l'accueillir, pour le guider, même quand il arrive à Paris. Il y a ce moment, je te cite Mathieu, une fois on m'a dit, après m'avoir baisé, c'est la première fois que je couche avec un danseur, et une autre fois, t'es particulier, je sais pas si c'est ton parcours qui fait ça. Le parcours queer d'Axel, c'est d'abord un parcours quand même de violence, ou à minima de solitude.
Oui, c'est un rapport très violent, oui, à sa sexualité, enfin la découverte de son identité, à son milieu social. Oui, il y a beaucoup de violence, c'est comme ça qu'il se construit, et puis de là naît quand même une colère, donc qui ne l'empêche pas, heureusement, qui le pousse, et plutôt dans une force créatrice. Mais la violence est au cœur, effectivement, de sa définition, de sa course, de sa fuite. Enfin, c'est un peu à l'origine de tout, mais pour beaucoup, je pense, enfin, queer ou non d'ailleurs, enfin, on peut penser à plein de parcours qui sont comme ça, poussé, alimenté, nourri par la violence. Mais là, c'est d'autant plus le cas, mais ça va lui permettre de se développer politiquement. C'est une radicalisation politique, esthétique, d'expérimentation aussi scénique. Mais puis, il y a une violence des fois qui peut être saine, alors pas celle forcément qui vit lui, mais il rend aussi parfois coup pour coup. Il peut être aussi très violent envers lui-même et très violent avec sa mère, surtout effectivement dans son incapacité à communiquer. Encore une fois, l'absence de mots là est parfois très dur, je trouve, à ne pas lire du coup. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais il peut être très violent. Puis dans le constat aussi qu'il fait des fois de la petite réussite de la mère qui n'est pas assez à son goût. Voilà, la violence, elle s'immisce aussi dans nos récits queer, beaucoup, je trouve. C'est comme ça qu'on se construit.
Elle circule, on la reçoit, on la...
Et c'est aussi parfois, que ça nous plaise ou non, qu'on se déconstruit. On a un rapport à la violence, des fois qu'on essaie un peu d'écarter, mais et pourtant cette violence, elle est très saine, mais elle passe parfois par des balles perdues, ou alors un rapport violent de nous-mêmes à nos identités, voilà.
On va parler de la danse maintenant qui arrive au secours d'Alex dans ce roman Brûle bébé. Ça commence par cette école de danse où il découvre le hip-hop, où c'est le seul garçon blanc dans cette école. Et puis surtout, au cours du récit, il y aura déjà beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais il est déjà 20h26, on voit le personnage Axel muter, se transformer. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette écriture onirique. Là, j'ai l'impression qu'on le voit surtout se transformer dans des moments de danse ou de performance avec sa mâchoire brillante, ses ongles fluorescents, des nacres qui sourdent de son corps. Je me suis demandé aussi si cette métamorphose, elle venait pas raconter les paradoxes du personnage d'Axel, c'est-à-dire que les moments de métamorphose, j'ai l'impression qu'ils s'accompagnent aussi de douleurs, mais ils se manifestent aussi au moment où il est au bon endroit, mais en même temps, c'est les moments aussi qu'il éloigne de sa mère. Tu écris « Je ne fais plus la différence entre l'écorce de mon anatomie et les tissus dont je la recouvre. Ils se sont agrégés pour créer une enveloppe réconfortante, résistante, qui me permet d'être et de raconter qui je suis, mais une enveloppe que ma mère ne reconnaît plus et ne comprend pas. »
Ouais, je parle de Body Riot aussi.
Voilà.
C'est cette plasticité en cours, je trouve, dans beaucoup d'imaginaires queer, mais là qui prend forme dans son parcours, effectivement, à travers la scène. Il a cette chance, en fait, que ça déborde. En fait, ça ne fait que déborder tout le temps. C'est ça aussi. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire aussi comme ça et de confronter une écriture un peu naturaliste et effectivement plus de l'imaginaire. C'est parce que, déjà, la vérité, je trouve pas ça hyper intéressant, mais du coup, et c'est pour ça qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il se situe, si on est en train de lire le personnage sur scène, si ça déborde dans sa chambre, si c'est un rêve. Effectivement, le mot d'ailleurs est jamais prononcé et c'est fait exprès parce qu'en fait, ou d'hyperconscience aussi. On peut se demander s'il n'est pas dans des rapports comme ça hyperconscient, mais parce que ça ne fait que déborder, et en fait c'est effectivement des peaux qui s'accumulent sur lui, qui lui permettent de se développer, de se construire, de se métamorphoser. Et effectivement, je crois que ces peaux, elles surgissent, ou ces événements physiques ou métaphysiques presque, surgissent effectivement quand il est au bon endroit, ou quand ça déborde, ça ne fait que l'empêcher. Il y a un moment où ça explose et ça se matérialise des fois par des transformations de ce type.
De corps et de métamorphose, il est beaucoup question dans ce roman Brûle bébé, mais là où le corps d'Alex, il est comme sublimé par la danse, celui de sa mère prend le chemin inverse. Je te propose de lire un extrait donc de ce roman.
Je pose mon regard sur l'intérieur de ses mains. Ces mains que je ne reconnais plus tout à fait. Ce sont les mêmes qui étaient posées sur mon front chaud quand j'avais de la fièvre, mais plus tout à fait. C'est le pouce qui frottait mon visage posé sur tes cuisses quand tu arrivais enfin à t'asseoir sur le canapé pour regarder le feuilleton du soir. Tu le faisais aller de mon sourcil à ma tempe jusqu'à ce que je m'endorme, mais lui aussi a changé. C'est l'annulaire droit sur lequel se glissait la bague en or aux mailles tressées plates que tu mettais seulement pour les grandes occasions, au repas de Noël, du comité d'entreprise surtout, et qui déclenchait des fous rires dans la salle de bain quand, tard le soir, en rentrant, tu essayais de l'enlever avec du savon parce que tes doigts avaient gonflé. Je te regardais, essayais d'arracher la bague, j'avais mal au ventre et je me tenais au lavabo. Ce sont ses mains qui m'ont applaudi lors du tout premier spectacle, celui de GRS, dans lequel j'étais à la fois la risée et la star. Habillée en cycliste de nylon noir, t-shirt jaune, poussin et rythmique blanche. puis ses mains aussi, qui m'ont applaudi au théâtre Fémina, à l'unisson, avec les gens autour. Ces gens que tu regardais, circonspectes et mesurés. Elles ne sont plus tout à fait pareilles non plus. C'est cette main gauche que tu as fait opérer du canal carpien il y a de nombreuses années. J'étais sûr que tu allais mourir, alors je m'étais effondré en pleurs quand, en entrant dans la chambre de l'hôpital, je t'avais vu vomir de la bile dans le petit seau en métal. On avait appris plus tard que tu étais allergique à l'anesthésie et que l'opération, bénigne, indolore et inratable, selon le chirurgien, avait foiré. En rentrant chez nous, tu m'avais raconté qu'il t'avait demandé de te calmer quand, dans le bloc, tu avais hurlé « Mais docteur, je sens tout là !»« C'est impossible. Vous sentez quoi exactement ?» avait répondu le médecin. « Bah là, je sens le froid des instruments qui coupent. » Depuis, trois de tes doigts de cette main restent bloqués une fois sur deux quand tu attrapes un objet. Ce sont ses mains qui lançaient les dés quand on jouait chez Tati Sophie, mais plus tout à fait non plus. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise perdante, tu me faisais dans la voiture sur le chemin du retour.
Mathieu Barbin lit un extrait de son roman Brûle bébé, c'est paru au Diable Vauvert. C'est un très beau passage qui continue un petit peu plus loin après avec des souvenirs entre Alex et sa mère. Ça illustre aussi assez bien à quel point Brûle bébé, c'est aussi le récit d'une domination de classe qui s'imprime dans les corps.
Ouais, c'est le corps de la mère, il est traversé par ses années effectivement à l'usine, par les ménages qu'elle fait pour payer les études de Alex, et puis alors d'autant plus son école de danse. Donc c'est ce corps qui voit meurtri, qui voit s'abîmer, et on parlait de violence, mais je trouve personnellement qu'il n'y a pas plus grande violence que de voir les gens qu'on aime partir un petit peu, quoi. Un petit peu, en fait. C'est surtout le un petit peu qui est dur, je trouve, aussi dans le roman. C'est de plus en plus les mots qui manquent des fois à la mère pour s'exprimer correctement. C'est les choses qu'elle ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à lui expliquer. Et puis lui se développe physiquement, effectivement, trouve un corps qu'il aime de plus en plus parce qu'il il est fait d'expérience, de son rapport aussi à son identité, sa sexualité. Donc lui, il a un corps qui fleurit, qui explose. Et quand il rentre, parce que le retour est très présent dans le livre, quand il rentre, à chaque fois qu'il rentre, la mère, elle, par contre, est de plus en plus tout à fait, plus tout à fait la même. Et c'est ces petites choses comme ça qui se perdent en route. Ça le rend fou et il a aussi beaucoup de mal à pouvoir penser cette violence.
Mathieu Barbin, tu restes avec nous pour parler donc de ce roman Brûle bébé qui est paru au Diable Vauvert, parce qu'il est l'heure à 20h33 de passer le micro au premier chroniqueur de la soirée, c'est Alexis. Et toi Alexis, de corps, il va être encore question ici puisque tu fais partie de ceux qui sont tombés dans l'un des phénomènes du début d'année, si je veux parler un petit peu comme dans les médias mainstream.
Voilà, tout à fait. Et oui, parce qu'il s'agit de Heated Rivalry, désolé. Je sais déjà d'une, je suis en retard, et de deux, je vais prononcer Heated Rivalry parce que je suis une personne humble et je préfère qu'on critique mon accent français plutôt qu'on me dise que j'en fasse trop en prononçant Heated Rivalry comme tu viens de le dire. Comme tu le disais, j'ai fini par tomber dans le phénomène car toutes mes copines me disaient « C'est vraiment trop bien, c'est une des séries gays que j'ai préférées. Alors franchement, si moi j'ai aimé, c'est sûr que toi tu vas kiffer. Tu devrais regarder avec Bip, Bip, c'est mon copain. » Désolé pour elle, mes copines ne parlent pas du tout comme ça en vrai. Bref, si une série avec deux hommes qui couchent ensemble devait... avec deux hommes qui couchent ensemble devait être faite pour moi et mon copain... alors que, à vrai dire, finalement, elle semble quand même être très bien faite pour mes amis hétérosexuels. Je fais court si vous n'êtes pas tombé dans ce phénomène du début d'année. Tout au long de 6 épisodes, on suit la relation de deux joueurs de hockey, de deux équipes rivales, d'où le nom, rivalité passionnée en bon français. Et d'après ce que j'ai pu lire de la part de différents journalistes, on peut observer en moyenne 2 à 3 scènes de cul par épisode de 45 minutes, soit entre 15 et 30% des épisodes. Autant dire que c'est assez central. Alors pourquoi je disais que c'est une série qui est plus faite pour mes copines que pour moi, déjà, eh bien, on voit que les corps sont toujours très normés. Évidemment, on parle de joueurs de hockey et je ne suis pas totalement contre le fait de voir ça, mais je peux toujours quand même me tourner vers une flopée d'autres films ou de séries si je veux avoir accès à ce genre de visuel. Puis, on voit toujours la représentation d'un genre de bad boy avec ses traumas qui explique sa part de sombre en lui, qui tente d'avoir le dessus sur son partenaire au lit comme dans la vie, alors qu'en face on aurait plutôt un vrai nice guy pour le coup, très propre sur lui, qui semble avoir la famille parfaite et se plie facilement au désir de l'autre avant de montrer que lui aussi il a quand même son mot à dire. On aurait presque celui qui fait la femme et celui qui fait l'homme. Alors j'ai j'avais un peu l'impression de revoir une série Wattpad dont je pouvais débriefer tous les jours au collège avec ces mêmes fameuses copines. Et sous prétexte qu'il s'agit d'une histoire gay, on devrait être OK avec le fait qu'on assiste à une histoire avec une relation toxique très romantisée sans que ce soit vraiment remis en question. Mais est-ce que je peux vraiment leur en vouloir à mes copines ? Parce qu'au ciné, le woman gaze n'existe pas encore vraiment. Enfin, elles peuvent regarder des corps masculins simplement pour le plaisir. Les femmes finissent en fait peut-être par développer des usages opportunistes pour satisfaire leur curiosité. On n'assiste plus à une histoire où elles sont rabaissées. On fait face à un porno soft qui ne dit pas son nom, mais ne laisse personne à la porte et l'ouvre même grand sur les sentiments. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on assiste à ce genre de phénomène. Dans les années 2000, la série Queer as Folk, qui narre l'histoire de copains et copines gays et lesbiennes, a attiré près de 30% de spectatrices. Et oui, je fais mon sosdem et use de la nuance, mais finalement, voilà une série gay qui se finit bien et qui critique aussi l'ambiance masculine et toxique du milieu du sport.
Merci beaucoup, Alexis. On va voir Heated Rivalry ou revoir pour se faire un avis. À voir, merci beaucoup. Et on retrouve Mathieu Barbin à l'occasion de la sortie de son premier roman. Il s'appelle Brûle bébé et c'est paru, je le rappelle, au Diable Vauvert. Oui, merci à toi aussi. Mais je propose qu'on écoute maintenant la voix d'Edouard Louis. C'est une archive qui date de l'année dernière.
Être dominant, c'est avoir accès à des technologies de confort, d'estime de soi, de compréhension de soi, la psychanalyse, la lecture de la littérature dans laquelle on s'identifie, on se reconnaît. L'accès à l'art est comme si, au fond, l'inégalité de classe, c'était aussi l'inégalité d'accès à l'exploration de son intériorité, de ses émotions, de son intimité. Et je découvrais comme ça un monde dans lequel... tellement de choses étaient possibles qui n'avaient pas été possibles dans le monde de mon enfance. Je me souviens qu'un des premiers hommes avec lequel j'ai eu une relation m'a emmené écouter un concert de piano de Martha Argerich, qui est une des plus grandes pianistes au monde. Et c'était tellement beau. Et je me suis dit, mais ma mère qui est femme de ménage ou sans travail, qui a vécu toute sa vie à élever des enfants dans le nord de la France, elle n'aura jamais accès à cette émotion-là. Elle ne sait pas qui est Martha Argerich. Elle n'a pas eu une famille, un monde, une classe qui lui ont appris à écouter cette musique. Peut-être que si on lui met, elle dira « mais ça c'est la musique pour la messe, c'est pas, ça m'ennuie ». Et je me suis dit les classes dominantes volent tellement de choses. Et je trouvais ça tellement injuste de me dire « jamais mon père, jamais ma mère, jamais ma sœur pourront entrer dans une salle comme celle-là et ressentir cette émotion de ce type de musique, de ce type d'atmosphère ».
Voilà la voix d'Edouard Louis au micro de Naomi Titi pour Binge Audio, extrait d'un entretien fleuve absolument passionnant auquel moi j'ai pensé en te lisant, Mathieu. Brûle bébé, c'est un roman qui raconte, on l'a dit, l'éloignement entre une mère et son fils du fait donc de la nouvelle vie de ton personnage Alex à Paris, dans des milieux culturels bourgeois, la difficulté à dire sa vie, son identité queer. Pour toi, c'est quoi le détonateur qui fait que Alex va pouvoir s'arracher à son milieu d'origine ? Est-ce que c'est le fait d'avoir grandi sans père ? Est-ce que c'est la découverte de son homosexualité ? Est-ce que c'est la danse ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Pourquoi est-ce que le destin le choisit lui, entre guillemets ?
Mais je ne sais pas s'il arrive à s'arracher. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais
c'est le combat de sa vie.
C'est un peu le combat de sa vie. Et en même temps, quand il commence à y parvenir, il se demande aussi si c'est ce dont il a vraiment envie. Et puis, il se retrouve aussi à devoir s'arracher ensuite des endroits, des rencontres d'une communauté qui pensait confortable, qui remet en question un certain militantisme aussi. Quand il arrive à Paris, on a l'image de Paris effectivement accueillante pour nos communautés. Bah, en fait, c'est assez peu vrai. Ça dépend des parcours. Hein. Chaque parcours est voilà, singulier, mais ça peut être aussi rempli de beaucoup de violence. Et en tout cas, pour lui, c'est le cas. Il y a le rapport à l'arrivée à Paris, à la ville, au centre, du coup, où tout se passe, où il peut enfin devenir quelqu'un et briller. Il n'est pas, si évident, notamment quand il découvre en fait, des groupes militants à travers lesquels lui, il a beaucoup de mal aussi de s'identifier. Donc je ne sais pas s'il parvient totalement à s'arracher de son milieu. Moi, je pense que, par contre, le détonateur, c'est vraiment la scène, une des premières scènes, je pense qu'avril 2002.
La qualification de Jean-Marie Le Pen.
La qualification de Jean-Marie Le Pen. Et puis, c'est plus que ça, c'est avril 2002 à travers les yeux de sa mère. Ouais. C'est-à-dire qu'il regarde sa mère regarder cet événement. Et c'est plus ça qui enclenche la course. Et je pense que ça va pas le quitter. Mais c'est pour ça aussi que dans le roman, on a beaucoup de scènes, d'événements, de noms, de faits politiques rappelés. Parce que, on vit dans une époque où un événement en chasse un autre. Et alors que c'est des coups de canif chaque fois sur effectivement nos identités, nos parcours, nos amis, nos familles, et qu'on a tendance un peu à toujours à laisser passer. Et lui, en fait, il se construit vraiment comme ça. Alors ça prend des fois une forme complètement fantastique, on l'a dit tout à l'heure, mais il se construit aussi comme un être politique et militant par ses coups de canif qui sont comme ça assénés. Donc, mais je dirais que le premier, c'est peut-être sa mère qui regarde ce gros monsieur en pleine digestion, à qui on apprend qu'il est qualifié au second tour et qui se demande s'il a pas fait oups une grosse bêtise. Si tu as fait une grosse bêtise, mais donc c'est ça l'événement qui va enclencher l'arrachement.
C'est l'occasion de parler de la télévision qui est un sorte de point de repère dans ce livre et dans l'appartement dans lequel Alex grandit. C'est un objet qui accompagne les discussions, qui meuble les silences, qui va cristalliser aussi tout un tas de crispations entre Alex qui va reprocher à sa mère d'être toujours devant la télévision et sa mère qui comprend pas pourquoi Alex éteint la télé alors qu'après il s'enferme dans sa chambre. Et puis ensuite, Alex participe à Drag Race France, toute ressemblance. et donc à ce moment-là, Alex, il rentre dans la télévision. C'est un moyen, je crois que toi, tu racontes aussi que pour toi, participer à Drag Race France, c'était un moyen de recréer du lien avec sa mère. Pour Alex, c'est pas forcément une franche réussite.
Non, mais pour moi non plus. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a. À partir de quand on peut dire que c'est une réussite ou pas. En tout cas, c'est vrai que pour lui, c'est un moyen effectivement de reconnecter, peut-être de reconnecter avec sa mère, mais aussi avec l'enfant, avec la mère qui regardait l'enfant regarder la télé. Enfin, c'est un peu kafkaïen comme. Mais il y a un parcours comme ça, et puis ça devient vraiment un personnage. La télé devient un personnage, effectivement, qui, comme la mère, comme la chambre d'enfant, des personnages qui vieillissent, qui sont de moins en moins satisfaisants, de moins en moins bien, et puis que lui regarde avec chaque fois un nouveau regard quand il revient. C'est pour ça que cet objet qu'il aimait tant, qui faisait le lien avec la mère, finalement il est au centre de leur rupture aussi à un moment, parce que lui ne regarde plus tellement la télé, ou en tout cas plus tout à fait la même chose, et elle est restée dans ce qui lui fait du bien, dans ce qui lui fait plaisir, sauf que lui il est plus du tout au même endroit, donc ça vient comme ça cristalliser encore une fois l'absence de mots. Mais oui, la télé est au centre dans le roman. La télé, effectivement, elle est au centre de tout, de son développement.
Tu dis que c'est un personnage d'ailleurs, et moi je trouve qu'il y a un autre personnage. T'as parlé de Auchan tout à l'heure. Pour moi, le supermarché, ça pourrait être un autre personnage. Ce qui me faisait penser, on a parlé de Édouard Louis à l'instant. Je pensais aussi à Annie Ernaux dans ce côté transfuge de classe, qui est pas un mot que je crois que tu utilises, qui n'apparaît en tout cas pas dans le roman. Je me demandais, est-ce que c'est aussi à cause de tout l'imaginaire que ça charrie, c'est-à-dire, quand on veut, on peut, les self-made men, est-ce que c'est ça qui te fait peur aussi?
Oui, c'est ça. Et puis, je trouve que c'est beaucoup employé par des gens qui n'en sont pas ou n'en sont plus. Il y a beaucoup d'imposture. Et puis, il y a aussi une recherche de la vérité. À travers ce mot, on écoutait Édouard Louis. Il y a une volonté de vérité en intellectualisant. Et j'espère et j'essaie que le livre échappe à ça. Encore une fois, on parlait de l'écriture plus onirique. C'est parce qu'elle permet aussi de détourner, déjouer la vérité. Et on est plutôt sur le parcours d'un personnage qui crie et qui se métamorphose, mais qui n'assène jamais de vérité absolue. Et voilà, je trouve que c'est un concept très fort qui a beaucoup servi, qui a beaucoup servi de béquille aussi à plein de gens, et c'est super. Et je trouve qu'on est aussi aujourd'hui beaucoup en train de le déconstruire, et c'est bien.
Lui aussi assène parfois des vérités absolues. C'est Chat, alias Père Castagne, qui m'écrit des lancements absolument géniaux, comme par exemple... Alors, Père Castagne, est-ce que vous, vous sucez pour un Mars ?
Mais oh, je ne te permets pas ! Mais enfin, non, mais moi ? Mais jamais ! Jamais une pipe en dessous de 100 balles, ok ? Non mais... Et puis jamais sans capote. Non, non, ça suffit, les yeux de coquère. Hein. Tu sors couvert ou tu sors tout court. Tu crois quoi, là ? Un bolide comme ça, ça se protège, tu vas avaler les kilomètres. Hein.
Alors, vous êtes dur en affaire, Père Castagne. Est-ce qu'on peut pas négocier ? Je ne sais pas.
Non, mais j'y crois pas, c'est bientôt, c'est les clients qui vont décider les tarifs. Oh, mais attendez, c'est déjà le cas. Vous ne me croyez pas, je vous explique. Nous avons récemment fêté les 10 ans de la loi de pénalisation des clients et les résultats sont... aussi nul qu'on pouvait l'attendre. On vous nous promettait la solution à tous nos maux, un monde sans exploitation sexuelle et c'est la panne, la mi-molle des textes de loi. Sans surprise cela dit, parce que quand on légifère sur un sujet sans les personnes dont c'est le quotidien, eh bien ça ne marche pas. Heureusement, un sursaut d'espoir surgit. Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 13 avril par la sénatrice écologique de Paris, Anne Souyris, après une grande consultation par et pour les concernés. Et des concernés, il y en a à l'appel, parce que le TDS est un univers hétérogène, pourtant peu surpeuplé de camarades queer. Alors qu'est-ce qu'on entend par le travail du sexe ? Selon le décret du 5 novembre 1947, on définit la prostitution comme l'activité d'une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'individus moyennant rémunération. Bon, c'est un peu aride, hein. Puis, la militante féministe pro-sexe et écrivaine californienne Carol Lee provoque le terme « sex worker » qui se traduit par « travailleur, travailleuse du sexe » afin de faire apparaître la notion de « travail ». Et ça semble anodin, mais ce rapprochement sémantique permet de penser le travail du sexe comme une activité rémunératrice au même titre que d'autres emplois salariés ou libéraux. Pourquoi c'est important ? Parce que le Code du travail ne couvre pas le TDS. Malgré le fait qu'il et elle payent des impôts, les professionnels du sexe ne bénéficient pas des prestations sociales dues à tout salarié. L'État se fait donc de la thune sur le dos des copaines en bon proxénète, tout en continuant à dégrader leurs conditions d'exercice. Petit point légal, en France, il n'est pas interdit, en tant que personne majeure et libre de consentir, d'exercer le travail du sexe. Cependant, depuis le 13 avril 2016, il est interdit d'acheter un rapport sexuel. Cette loi, poussée par les groupes abolitionnistes qui prétendent sauver les femmes de ce qu'ils appellent le système prostitutionnel, n'a fait que réduire le nombre de clients disponibles. Et forcément, moins de poissons dans la mare, ça signifie que tu as plus de risques de pêcher des ordures. En d'autres termes, le rapport de force s'est inversé entre professionnels et clients. Et c'est ça qui rend le TDS beaucoup plus dangereux pour les copaines depuis 10 ans. Ça et les articles 225-5 à 225-12 dont je vous passe la lecture, qui... je cite, « interdisent le proxénétisme sous toutes ses formes, y compris le fait d'aider, de tirer profit ou de loger une personne se livrant à la prostitution. » Donc je résume. Tu travailles, tu payes des impôts, mais tu cotises pas pour la sécu, ni la retraite. T'es pas couvert par le code du travail. Les lois en vigueur te mettent des bâtons dans les roues. Tes potes peuvent même pas t'aider sans risquer une amende et tu te fais régulièrement harceler par les forces de l'ordre sur ton lieu de travail. Dans n'importe quel autre boulot, on aurait déjà entendu les syndicats hurler. Là, c'est le silence. Pour une écrasante majorité, les cellules syndicales, pour eux, le TDS, c'est un sujet fantôme. Parce que le travail du sexe, c'est sale, c'est honteux. Et puis dans l'imaginaire collectif, c'est surtout féminin, donc on s'en fiche. Pourtant, la puterie, ça fait mouiller le capitalisme. On retrouve les codes du TDS dans le marketing, dans les films, les défilés de mode et même dans des pratiques sportives. Faire de la pole dance ? Oui, si t'es une girl boss qui sent pouvoir dans un studio privé. Non, si tu écartes les cuisses pour payer le loyer. On aime le cuir et les cuissardes de Domina sur les podiums et les affiches, mais pas sur les sites de prestations BDSM tarifées. L'esthétique pute est partout, mais il ne faudrait surtout pas en être une pour de vrai.
Et donc, Père Castagne, rien n'a été fait depuis 2016.
Alors, des initiatives communautaires et alliées ont bien vu le jour, comme le STRAS, que vous connaissez peut-être, syndicat du travail sexuel, qui est membre de la Fédération des Parapluies Rouges. Il y a des soirées aussi, comme le Bal des Putes, ou encore la plateforme Jasmine, lancée par Médecins du Monde, qui permet de signaler les violences faites au TDS. Côté politique, ils ne sont pas en reste. On peut noter aussi quelques alternatives évoquées ces derniers temps, mais rien de satisfaisant. Notamment la proposition lunaire du Rassemblement National de rouvrir des maisons closes. Alors là, attention, FBI, fausse bonne idée. Vendre son cul pour les fachos n'est pas Macron qui veut. Rappelons-le, tant que ce n'est pas par et pour nous, c'est contre nous. Peu importe la modalité, l'exploitation reste la même. C'est pour ça que la proposition de loi portée par Anne Souyris donne espoir en une législation qui servirait vraiment les intérêts des premiers et premières concernés. Une loi qui protège les travailleurs et travailleuses, qui sort le TDS d'un système d'exception pour l'intégrer dans le régime des travailleurs, pour en finir enfin avec la stigmatisation et l'omerta. Car n'en déplaise aux abolos. Tant qu'on aura un loyer à payer dans un pays néolibéral, capitaliste, validiste, transphobe et xénophobe, eh ben y aura des putes.
Eh ben merci beaucoup, Père Castagne et la SCHA, pour cette prise de parole 10 ans après la loi de 2016 donc sur le travail sexuel. Vous écoutez évidemment le lobby sur Radio Campus Paris. Et on est encore pour quelques minutes en compagnie de Sarah Forever, alias Mathieu Barbin, pour son premier roman Brûle bébé, paru aux éditions du Diable Vauvert. Juste avant la chronique de SCHA, on parlait de la présence de la politique dans ton roman. Moi, ça me faisait encore penser à Édouard Louis, qui lui aussi fait la part belle à la politique dans ses romans, ce que la critique lui a reproché d'ailleurs. Il dit dans son essai Que faire de la littérature que lui, il parle beaucoup de politique parce qu'elle est présente dans sa vie, parce que les décisions politiques, il y a des conséquences pour lui, dans sa chair, pour sa famille. Il dit 5 euros de moins dans les APL, c'est un repas en moins, etc. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans ton livre.
Oui, enfin, je veux dire, c'est au cœur de tout, de nos existences. On parlait de violence, encore une fois. Enfin, c'est... Et puis, parfois, ça nourrit beaucoup de fiction, hein, la politique. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Enfin, je vois pas trop le. En fait, j'arrive pas trop à comprendre le débat, pour être honnête. Enfin, je trouve que c'est au cœur de nos identités et du coup, et de nos récits. Et du coup, ça peut exister dans un roman, dans une pensée, un essai, enfin peu importe la forme, en fait, il faut pas le limiter. En fait, j'ai l'impression aussi qu'en le limitant à un exercice qui serait l'essai, on essaie aussi peut-être de faire en sorte que ça ne déborde pas, qu'il n'y ait pas aussi de prise de parole, d'imaginaire qui se développe autour, et donc de moyens de résistance, parce que c'est aussi ça que ça crée. Donc c'est peut-être la volonté à travers ça de le limiter pour bien le maîtriser, quoi.
Ça va être déjà presque notre mot de la fin, puisque je vois qu'il est déjà 20h52 et si je lance pas la chronique de Javel, j'ai peur qu'on dépasse. En tout cas, merci, tu restes avec nous, Mathieu, puisqu'on va quand même écouter Javel comme chaque mois. On va la retrouver, puisqu'on va retrouver celle d'ailleurs qui passe les grands films du cinéma dans le cringeomètre.
Exactement,
c'est à toi.
Exactement, Colin. Et dans la veine de tous ces grands films de l'histoire du cinéma, j'ai choisi ce soir I Am Céline Dion, le documentaire Amazon, paru en juin 2024. Donc on est sur du cinéma d'auteur de qualité par les studios MGM. Après Céline et Mélania, on n'attend plus que le manifeste sur Afida Turner. Alors bien sûr, le film est plein de poncifs, images d'archives de la grandeur passée versus quotidien de la maladie pour Céline Dion, qui ne peut plus chanter. On le sait, puisqu'elle est atteinte du syndrome de la personne raide. Mais le docu m'a intéressé pour 3 choses. D'abord, c'est l'histoire d'une dame toute seule à Las Vegas, dans une maison trop grande pour elle. Enfin, toute seule, il y a le coach, le kiné, l'infirmière qui lui donne du paracétamol, l'équipe de tournage à domicile, et au loin, quelque part, ses 2 fils qui ont chacun pour chambre une salle d'arcade. Et c'est là qu'on se dit qu'au fond, être malade, c'est quand même un peu plus smooth quand on est ultra riche, hein, puisque Céline se fait des perfusions de plasma pour booster ses anticorps. Et il y a un instant lunaire où elle regarde la poche de perfusion et elle demande à l'infirmière « Combien de personnes il y a là-dedans ?» Elle lui répond « Oh, entre 1000 et 15 000. » Donc la meuf s'injecte l'équivalent d'un stade, en fait. Après avoir rempli Bercy, désormais, elle se le vide en intraveineuse. Et c'est un peu comme si elle avait vécu sa vie comme un coucou qui sortait d'une horloge 4 étoiles pour chanter à heure fixe avant de retourner dans l'obscurité du luxe. Sauf qu'aujourd'hui, le coucou a perdu sa voix, alors il erre désœuvré à ne plus savoir qui il est quand il ne donne pas l'heure. Et c'est cette dimension qui m'a intéressée parce que le film montre aussi ce que l'industrie du spectacle fait au corps, des corps qu'il ne veut pas voir vieillir et particulièrement celui des femmes. Céline Dion raconte les mensonges, les soi-disant sinusites pour expliquer les annulations de concerts. Et puis les doses de Valium, toujours plus fortes. Pour référence, un cachet, c'est 10 mg, un gros dosage, c'est 40. Elle, pour tenir, elle tournait à 90. Céline Dion, c'était une athlète de la voix, avec des cordes vocales en titane. Sauf qu'à un moment donné, ça casse. Et c'est ça, ce que l'industrie fait au corps. Elle les épuise et les abîme jusqu'à l'irréparable. La chanteuse aura fait semblant d'être inaltérable. Elle aura chanté jusqu'à en perdre sa voix. Et nous voilà au moment où Céline Dion n'arrive plus à faire Céline Dion. Soudain, elle n'est plus à la hauteur de sa propre légende. Et il y a une séquence tristissime où elle entre en studio en prévenant qu'elle ne va peut-être pas y arriver, mais que ça serait bien qu'elle y arrive. Et finalement, bah, elle n'y arrive pas. Enfin, elle y arrive un peu, mais le son de Céline Dion n'est plus là. Et pour elle, c'est inacceptable. Sauf que ce récit de la super-héroïne rattrapée par sa condition humaine, eh ben c'est aussi une narration. Et c'est comme le dernier épisode d'une épopée qui nous aura tout montré, son mariage en grande pompe, sa première reprise de All By Myself après la mort de René, vous savez, cette vidéo où elle fait la note puis elle s'effondre. Ici, on voit même des images de la naissance de son premier enfant avec coupage de cordon. Vous avez vu, vous, le coupage de cordon des enfants de votre entourage? Eh ben non, mais celui de René Charles, oui. Céline, c'est le personnage principal d'une fiction qu'elle nous raconte. Du coup, quand elle réalise qu'elle ne peut plus chanter, eh ben elle produit là aussi un récit de sa dégringolade, preuve à l'appui. Alors cette preuve, c'est la séquence en gros plan d'une crise éprouvante filmée en continu. D'ailleurs, on sent que Michael Jackson est passé par là hein, et que tout le monde flippe et se couvre en répétant bien pour la caméra « Je t'injecte une dose de Valium, je répète ». Des fois que ces images servent un jour pour l'enquête sur la mort de Céline. Et les images sont tellement choquantes qu'on ne peut plus douter que Céline Dion, c'est fini. Que elle voudrait encore, mais qu'elle ne peut plus. Et on dirait que c'est à ça qui sert le film, à nous dire « vous voyez bien que c'est pas de ma faute ». Et c'est ce que je trouve déchirant. Après une vie entière devant les caméras, elle ne s'autorise pas à se retirer sans nous prouver qu'elle n'avait pas le choix. Alors, plot twist, 2 ans plus tard, 2026, Céline Dion revient. Bon, j'avoue, j'ai pas trop compris, hein. On l'avait quittée sur un brancard, mais telle Conchita Wurst et le phénix, la voilà qui renaît de ses cendres. En même temps, elle nous le disait, hein. « Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, j'irai en rampant ». Rendez-vous donc en septembre pour le reboot, la suite au prochain épisode.
Merci Javel, bah, hâte de découvrir le prochain reboot. Alors en 2 secondes, tu nous dis ce à quoi on s'attend pour la prochaine soirée à Bibi.
Et bah, le prochain épisode de la soirée à Bibi, c'est 22-23 mai à la Flèche d'Or, une édition consacrée aux autoportraits.
Et bah voilà, le rendez-vous est pris, Lucie.
Mathieu Barbin, depuis mars, tu as une tournée de rencontres et de dédicaces à travers toute la France. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est une toute autre rencontre avec le public que celle qui se passe sur scène. Qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres?
C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est très chargé aussi parce qu'on parle de récits. Donc dès qu'on les partage et que ça résonne, c'est évidemment très fort et aussi très fragile. Et puis c'est beau de se réunir autour du livre, de voir des queers s'emparer aussi de cet objet dont on a été très longtemps séparés, enfin en tout cas pour moi, je généralise pas. Donc c'est très, c'est autre chose hein, évidemment que le spectacle, c'est plus fragile, plus sensible. On prend aussi beaucoup le temps, il y a beaucoup de soins, je trouve, dans le partage des récits et des livres. Donc c'est des très beaux moments et j'encourage tout le monde à venir aux rencontres, voilà, si on passe par chez vous.
Et ce vendredi, c'est le 1er mai, on traverse un contexte politique violent, oppressant, pénible. Est-ce que tu défiles? Et si oui, où est-ce qu'on peut te voir ce vendredi?
À Paris, je serai à Paris.
Super, ouais. Génial.
Ah non, je serai à Bordeaux.
À Bordeaux.
Ah non, je serai à Paris.
À Paris.
Non, je serai à Paris.
Un peu partout.
Non, mais l'année dernière, je serai à Bordeaux parce que t'es à Bordeaux. Non, je repars le lendemain. Non, je serai à Paris. Ouais,
génial.
Bien sûr.
Allez, il nous reste juste une minute pour exprimer un peu de gratitude. Voilà, on retrouve notre nouvelle tradition en une minute. À qui, à quoi souhaiterais-tu dire merci ce soir, Mathieu Barbin, Sarah Forever?
Merci au marathon de la vodka que je faisais avec mes amis d'enfance, qu'on a fait très longtemps. Alors ça, à chaque fois, ça changeait de lieu. Hein. Des fois, c'était chez Lorraine, des fois chez Thomas, des fois chez Fanny. Bah oui. Jamais chez moi, bizarrement. Et c'était des lieux, des week-ends où, bon, bah, comme son nom l'indique, on ne buvait pas que de la tisane, mais où on réinventait aussi beaucoup de choses, où on se nourrissait beaucoup de nos envies, des envies de départ, de ce qu'on avait envie de devenir, de ce qu'on avait envie de détruire. Et c'est des choses que je garde beaucoup avec moi. Alors, pas que l'alcool, mais vraiment aussi tous ces moments où on prend conscience qu'on peut être et partir.
Eh ben merci beaucoup, Mathieu Barbin. Brûle bébé, c'est ton premier roman. Il est paru au Diable Vauvert. Merci beaucoup d'avoir
merci
été
à
avec
vous.
Nous.
Merci
ça nous
beaucoup.
A fait très plaisir. Et merci à toute l'équipe de l'émission. Au micro, il y avait Lucie, Alexis, Chat et Javel. En régie et à la réalisation, il y avait l'indispensable Margot Page. Toutes les émissions du Lobby sont à retrouver sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast. J'ai l'impression de faire un freestyle sur le... On se retrouve le mois prochain. Et puis, ben, bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9 FM.